Voilà, je vous prie de m'excuser pour le petit contretemps. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Bienvenue à vous toutes et tous dans ce moment de culte. Bienvenue à vous. Nous sommes réunis ce matin dans la prière et nous en parlerons justement aujourd'hui dans la prédication de ce matin. Et je vous invite pour commencer ce temps de culte avec toutes celles et ceux qui sont derrière leur écran et qui nous suivent. Je vous invite à commencer ce temps de culte par chanter et je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui sont ici de passage à Paris et qui ont fait le chemin pour venir ce matin à l'Oratoire du Louvre. Bienvenue à vous. Je vous invite à chanter, vous trouvez toute la liturgie dans le début des psautiers français, au tout début du livre, la liturgie y est. Merci. Nous prions ensemble et nous louons le Seigneur. Éternel, nous voulons te prier et te louer en ce moment où nous nous réunissons. Nous te rendons grâce, nous te louons. Nous voulons te redire notre joie. Avec cette prière, lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange. Célébrez Dieu. Bénissez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et je vous invite à chanter le psaume 72, les strophes 1, 2 et 3, dans le psautier français. invite à vous asseoir. Et merci à David Cassan ce matin qui accompagne ce moment de culte. Voici la volonté du Seigneur à travers la parole de Jésus qui nous dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs le font, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Nous chantons. Nous nous présentons devant le Seigneur avec cette prière de Francine Carillo. La vie n'attend pas, Seigneur. Elle nous fait signe à chaque instant, à chaque tournant, et nous marchons souvent tête baissée sur nos soucis, sur nos replis. La vie n'attend pas, les autres sont là à chaque instant, à chaque tournant, et nous sommes souvent malentendants, paresseux dans nos empressements. La vie n'attend pas, Seigneur. C'est toi qui nous attends, toi qui nous cherches inlassablement, qui nous veux vivants à chaque instant, à chaque tournant. Ouvre en nous l'espace pour ton pardon, qui est toujours un commencement, et donne-nous de vivre de ta patience, qui nous rend à la belle urgence d'aimer la vie, en la faisant passer de visage en visage, à chaque instant, à chaque tournant. Amen. Mais le Seigneur redit sa grâce, il connaît nos difficultés, il connaît ce qui nous sépare de lui et il nous attend. Alors je vous invite à vous lever pour lui dire votre engagement, votre volonté d'être avec lui. Et il vous dit cette parole de grâce, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Chantons notre reconnaissance.
Amen.
Et je vous invite à vous asseoir exceptionnellement pour la confession de foi, pour que vous l'écoutiez de façon plus facile. C'est la confession de foi qui est issue du discours d'Oslo de 1964 de Martin Luther King. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité. Malgré le réchauffement de la planète, l'épuisement des ressources naturelles, la pollution des eaux provoquée par les industries civiles et guerrières, la disparité des richesses, la malnutrition des êtres humains, le taux effarant d'extinction des espèces, je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Certes, la vie sur Terre est robuste, mais c'est l'avenir de l'espèce humaine qui en est cause. Notre avenir est entre nos mains. Il faut réagir vite dans l'espérance de l'Évangile. Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille, ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements, et qu'il y aura la sagesse de sauvegarder la planète, son berceau, pour que la vie subsiste. Je refuse de partager la vie de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de faire mienne la prédiction cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme vers l'enfer de la destruction nucléaire. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot. Effectivement, la vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la Terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons, car l'homme et la femme ont la capacité de résister au mal par la vertu du Christ qui nous a apporté la bonne nouvelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Ce matin, nous lirons ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, les versets 39 à 42. Après être sorti, Jésus alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez, afin de ne pas entrer en tentation ». Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre et se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse et il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Je vous invite à chanter le cantique 202 dans les louanges et prières, les strophes 1 et 2. Nous nous levons. Éternel, apprends-nous à écouter ta parole, qu'elle entre dans nos cœurs et nous inspire aujourd'hui comme elle inspira les hommes et les femmes d'hier, qui ont transmis leur témoignage de foi dans la Bible. Que ta parole anime nos pensées et nos actes pour que nous devenions les prophètes pour ce monde. Amen. Sans doute beaucoup d'entre nous ici, et moi la première, se demande s'il prie assez souvent et s'il prie comme il faut prier. Prier chaque jour, le soir, le matin, dans un temps consacré dans la journée, avant les repas peut-être, seul ou en famille, en public ou retiré dans sa chambre. Sans doute y a-t-il autant d'usages et de coutumes que de personnes qui prient. Prions-nous quand les épreuves adviennent, et seulement là, quand les bonheurs arrivent, ou bien pour garder le contact avec Dieu. Nos prières sont-elles des conversations, ou bien des demandes impératives, des cris de souffrance, ou des éclats de joie? Et quand nous sommes dans ce temple, ici même, rassemblés, priant individuellement ou bien avec les paroles des autres, sommes-nous dans une relation singulière avec le Dieu auquel nous croyons, ou nous laissons-nous porter par la prière de celles et ceux qui partagent ce temps de culte, où elle est non seulement autorisée, mais aussi attendue? Toutes ces questions trouvent sans doute leur réponse chez chacun de nous et révèlent de notre liberté, de notre culture religieuse, de notre histoire familiale, de notre histoire singulière, peut-être aussi de notre expérience fondatrice de la prière et surtout de notre intimité. Mais ce n'est pas parce que la prière est une affaire individuelle qu'on ne peut rien dire d'elle. C'est une pratique tellement ancienne qu'elle a sa propre histoire dans l'épaisseur du temps qui se confond souvent avec celle de la relation à l'être humain au divin. C'est sans doute le premier acte de celui qui se tourne vers Dieu. Peut-être qu'en nous demandant ce que nous recherchons dans la prière, nous sommes démunis et pensons que nous ne recherchons pas une utilité particulière. Mais alors, que se passe-t-il quand la prière surgit? Je dis surgit parce que je ne suis pas certaine que nous sommes toujours à la manœuvre quand nous sommes en prière. Ne serait-ce que parce que la prière peut être celle d'un autre et qu'elle vient nous rencontrer sans qu'on l'ait choisie, comme si elle venait nous cueillir là où quelque chose est caché en nous qui répond. Comme dans la liturgie de ce culte où tel mot, telle demande ou telle louange a pu rejoindre telle ou telle personne et pas telle ou telle autre. Feuerbach, le philosophe, pense que la prière exprime nos sentiments et qu'elle permet de les extérioriser en les adressant à Dieu, comme si nous avions besoin de cette transcendance pour savoir que penser et que faire et comment nous déterminer. Une forme de dédouanement dans lequel le divin serait l'alibi à notre impuissance, en fait. On remettrait à Dieu ce qu'on ne peut pas régler soi-même. Le texte de l'Évangile ne fait-il pas dire à Jésus « Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite ?» La prière serait-elle ce détour par un autre fantasmé comme divin pour mieux éviter de penser ou de faire ce que nous devrions faire dans le monde où nous sommes? Peut-être sommes-nous vaguement coupables à certains moments d'avoir recours à la prière alors que nous devrions faire advenir le règne de Dieu par nos actes et pas seulement en paroles priantes. Que changent nos conversations singulières avec Dieu ou les cultes que nous lui rendons, si prolixes en paroles, contre ce que dit Jésus dans l'Évangile, et qui semblent parfois si démunis devant l'impératif d'action que nous oppose le réel? On peut prier contre la guerre, s'arrêtera-t-elle pour autant? On peut prier contre la faim dans le monde et les enfants du monde entier auront-ils pour autant un repas par jour, ne serait-ce que cela? Ne sommes-nous pas toujours dans le constat quand nous demandons à Dieu de faire ce que nous ne pouvons pas changer nous-mêmes, sans être dans l'action? Si la prière est une parole désarmée pour combattre le mal, alors pourquoi Jésus tient-il tellement à ce que ses disciples restent éveillés pour prier? Et puis, nous qui connaissons la fin de l'histoire, n'avons-nous pas la preuve que la prière est inutile à tout changement, puisque bien qu'il ait demandé dans sa prière à être épargné dans cet engrenage du mal qu'il sentait l'engloutir, Jésus finira quand même sa vie crucifiée. Les rédacteurs de l'évangile de Luc ont eux-mêmes voulu changer ce passage, d'ailleurs, si troublant d'impuissance, en ajoutant un verset miraculeux que voici. « Alors un ange est apparu du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » On sent ici la patte d'un rédacteur insatisfait d'une telle inefficacité de la prière et qui, ne voulant pas la laisser ainsi sans contrepoint dans l'Évangile, lui ajoute une intervention divine sous les traits d'un ange qui vient fortifier Jésus. « Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation, » dit Jésus à ses disciples, qu'il trouve endormi de tristesse. Magnifique sursaut de celui qui va mourir pour une cause juste et qui sait qu'il faut tenir debout jusqu'au bout, jusqu'à la fin, comme si une résistance était encore possible, encore utile, encore efficace, encore signifiante. Là où l'inéluctable devait arriver, levez-vous et priez, comme le « lève-toi et marche » qui sauve le paralytique de l'évangile de Jean. Cet ordre-là est comme une prière de Jésus à ses disciples, comme une opposition à la fatalité, comme un appel à l'action, au combat, à la résistance. Résister par la prière pour ne pas être tenté, semble dire Jésus. Que veut dire Jésus quand il parle de tentation? Peut-être parlait-il de la tentation de renier tout l'enseignement qu'ils ont reçu de lui, peut-être celle de refuser la volonté de Dieu au moment où il s'agit d'être fidèle. Peut-être celle de se renier eux-mêmes à l'heure où l'adversité va venir les provoquer et leur demander le courage incroyable d'être des disciples de celui qu'on crucifie. S'ils dorment de tristesse, comme le décrit si finement cette description psychologique, ils se réveilleront surpris par les gardes. Ils se réveilleront résignés à subir l'injustice qui accable leur ami et maître. Et tout ce qui aura été fait l'aura été pour rien. Non pas qu'ils puissent résister aux gardes avec violence, on verra que Jésus d'ailleurs s'y oppose, mais s'ils se préparent, ils pourront faire ce qu'on leur impose, ils pourront faire contre ce que leur impose, ils pourront en faire leur affaire. Ils assumeront les conséquences de leur choix de vie et n'auront pas à se diviser intérieurement. C'est la définition du diable, division intérieure. Pour tenir dans l'adversité, ils pourront être tout d'une pièce devant le mal qui surgit. Et alors ils pourront agir sans se laisser accabler et continuer ce que leur maître leur a montré. On le lit ici, la prière n'est pas une option, une activité pour passer le temps qui reste, ni une façon de se consoler facilement dans un moment de tristesse, mais une véritable façon de vivre debout. À l'heure du développement personnel, où l'on aurait tendance à confondre la prière avec le refuge qui permet de se recentrer sur soi pour être épargné par le mal extérieur, où l'on aimerait renouer avec des pratiques qui permettent de se mettre à part du monde pour ne plus avoir à y agir, laissant les autres se débattre avec le réel pendant qu'on se retire du monde pour se reposer un peu. L'Évangile nous décrit un homme qui prie comme on combat. À l'heure où les méthodes pour méditer sur son chemin personnel sont légion et où l'on cherche le sens de sa vie comme s'il pouvait se donner à notre intelligence une fois pour toutes, l'Évangile nous montre un homme qui lance un cri de ralliement. Un cri de ralliement vers ses disciples, à ses amis, pour qu'ils ne le laissent pas seul en prière et tiennent ensemble avec lui, qu'ils viennent le retrouver dans cette activité si intime, si exigeante, qui consiste à regarder en face ce qui arrive et à peser notre marge de manœuvre pour agir. Dans le cas de Jésus, se laisser emmener, condamner et crucifier est une décision qu'il a dû prendre dans la prière. Il aurait pu choisir de renier ses dires, de renier sa foi, et du même coup de renier ce qu'il était pour échapper à son supplice, mais il ne l'a pas fait. À plusieurs reprises, Jésus se met à l'écart de la foule qui cherche des solutions, de l'aide, un avenir. Cette foule qui espère et le presse de répondre à ses attentes. Cette foule pour qui la prière est une demande impérieuse, tournée vers un autre, de qui elle attend tout. Jésus se met à l'écart de cette pression qui le met en demeure de changer la situation de toutes ces personnes qui cherchent un salut. Alors on pourrait se dire, mais lui aussi va se mettre au vert et évite d'affronter le monde. Pourquoi se met-il à l'écart, au-delà d'un lac ou sur le mont des Oliviers comme il le fait là dans notre texte? A-t-il lui aussi besoin de s'extirper du monde pour se recentrer sur lui-même? A-t-il besoin de s'inventer une transcendance pour lui laisser le soin de trouver les solutions qu'il ne trouve pas en lui-même? Est-il incapable de prendre lui-même la mesure de la situation pour trouver les remèdes au mal qu'il voit aujourd'hui autour de lui? Est-ce une échappée ou au contraire l'entrée même dans le combat qu'il a à mener? Il y a des prières qui sont des fuites et des prières qui montent au front. Il y a des prières qui mentent et d'autres qui révèlent la vérité. Il y a des prières qui participent au mal et d'autres qui font naître le bien. Il s'agit ici de ne pas être naïf avec nos dévotions. Acte de parole, même quand elle est silencieuse, la prière est aussi risquée que n'importe quelle parole. Elle pose un acte et dit quelque chose de notre rapport à Dieu et à notre prochain. On prie comme on s'engage. Et le retrait du monde n'est que de courte durée, car la vocation de la prière n'est pas de nous retirer du monde, mais bien de nous y engager. Wilfred Monod, pasteur ici même, créateur de la Fraternité des Veilleurs, écrit « Peut-on prier aussi longtemps qu'on profère un mensonge en disant que ton règne vienne ? Ou encore pardonne-nous comme nous pardonnons ? Ou encore délivre-nous du mal ? » La vraie préparation à la prière, c'est l'acceptation franche et définitive de l'idéal qui nous est proposé dans l'oraison dominicale, à savoir que nous ne vivons point pour nous-mêmes ici-bas, mais pour le salut de l'ensemble, pour le triomphe de Dieu en l'humanité par l'Esprit de Jésus. Ici, d'après Wilfred Monod, la prière n'est donc pas un retrait du monde, ni une mise à l'abri, ni le réconfort de savoir que nos sentiments personnels sont entendus d'un Dieu toujours d'accord avec nous. La prière est cet écart que l'on fait juste avant de commencer une course, le pied d'appel juste avant de s'élancer et de sauter l'obstacle. C'est le moment où nous reprenons l'élan nécessaire pour aller vers les autres et vers notre travail d'enfant de Dieu. C'est un moment essentiel pour savoir à quoi nous nous engageons et ne pas flancher au milieu du chemin. Et si nous tombons, ma foi, il faudra prier une nouvelle fois, reprendre l'élan nécessaire et retourner. Wilfred Monod écrit aussi: le secret de toutes les rénovations, de toutes les forces, de toutes les victoires, apprenons-le de notre Maître et Sauveur. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ce détail nous livre la clé d'un mystère, car parmi toutes les questions qui s'imposent à notre raison, en est-il une plus énigmatique et plus captivante que celle-ci? Comment Jésus de Nazareth est-il devenu sauveur du monde? L'évangéliste nous le révèle, Jésus priait. Chacune de ses journées débutait par l'établissement d'une communication ineffable entre le Fils unique et le Père céleste. La même expérience religieuse nous est permise. Si nous nous agenouillons au matin pour acquiescer à la vie, l'acceptation vaillante et sincère des conditions actuelles de l'existence éveillera notre sympathie pour les hommes, nos frères, soumis aux mêmes conditions, et nous nous unirons à l'humanité par un acte intérieur. Et cette union avec l'humanité nous mettra en contact avec le Christ, et le Christ nous mènera vers Dieu. Quand nous en sommes là, notre prière a touché son but. Nous respirons l'air des hauteurs. Maintenant, nous sommes prêts pour le travail de la journée. Une voix mystérieuse nous l'assure, une force pure nous anime. Nous sommes en harmonie avec la vie, avec les hommes, avec le Messie et avec Dieu. Nous pouvons aller de l'avant. Amen. Je vous invite à chanter le psaume 23, cette prière tellement connue que vous allez retrouver dans le psautier français, le psaume 23, les strophes 1, 2 et 3. Voilà, je vous invite à vous asseoir et c'est notre présidente du Conseil presbytéral, Aurore, qui va partager avec nous les annonces.
Merci Béatrice. Bonjour à tous, y compris sur Internet, mais d'abord merci à ceux qui sont venus physiquement d'avoir bravé le froid, parce qu'il fait zéro à Paris ce matin, mais un grand soleil, regardez l'orgue, qui est en train de briller. Alors, il brille grâce à David et tous nos organistes, mais aussi grâce, souvenez-vous, hein, il y a encore un an et demi, le soleil ne pénétrait plus dans ce temple parce que nous avions des vitraux complètement encrassés. Et maintenant, vous pouvez voir l'ombre du soleil aussi sur, et l'ombre des vitraux sur les murs. Et là, vraiment, l'orgue est absolument superbe pour ceux qui sont assis de ce côté-là. C'est-à-dire, je vous conseille de vous asseoir dans le chœur, parce qu'il fait toujours beaucoup plus chaud dans le chœur que de l'autre côté. quelques annonces. Lundi, il y a cours de peinture exceptionnellement, parce que vous savez que les vacances scolaires démarrent, mais ce lundi, il y aura bien cours de peinture. Dimanche, toi, tu vas essayer de prendre quelques vacances entre deux cultes d'action de grâce.
Ça peut m'arriver, oui.
Voilà, c'est assez compliqué. pour Béatrice en ce moment d'arriver à prendre quelques congés. Néanmoins, nous avons la joie d'avoir dimanche prochain la pasteur Laurence Flachon, que vous connaissez, qui nous vient de Bruxelles, qui vient donc prêcher dimanche prochain et qui va donc permettre à Béatrice de souffler un peu. Donc vraiment, soyez nombreux à venir accueillir Laurence si vous ne la connaissez pas encore, parce qu'elle est très sympa aussi. Je confirme.
Très sympa.
Et du coup, tu ne vas pas la voir, toi.
Et alors, malheureusement, cette fois-ci, on va se croiser.
Oui. Voilà. Donc, dimanche prochain. Dimanche d'après, tu as parlé de Wilfred Monod. Il y a un très beau livre qui s'appelle « L'évangile intégral » de Laurent Gagnebin, qui est d'ailleurs en vente à la librairie. Laurent Gagnebin sera ton invité, donc le dimanche 3 mars, ou 2 mars, je ne sais plus.
Oui.
Le dernier dimanche avant les vacances, c'est-à-dire pas le prochain, mais le suivant.
Ouais.
Laurent Gagnebin est ton invité sur son dernier ouvrage, « La liberté de la foi », qui est également en vente à la librairie. Caroline vous attend à la librairie. Nous en reste 9, donc prenez-le, parce que c'est toujours mieux d'avoir lu un ouvrage avant.
Pour lui poser vos questions.
Voilà, directement en l'ayant lu. Donc il en reste à la librairie. Bien entendu, nous allons réachalander aussi pour que vous puissiez vous en procurer avant, donc dimanche, je ne sais combien, mars, premier dimanche de mars, sur le livret spiritualité.
Oui. Une question?
Non.
Non.
Je pense qu'on va beaucoup prier. Vous savez que Luther disait que chanter, c'est prier deux fois.
Oui, oui, mais prier, c'est s'engager. Hein.
Prier, c'est s'engager. Et alors, je vais vous donner un secret. On aime bien les secrets dans les églises. Et j'ai écouté religieusement ta prédication. Et on dit souvent que les libéraux ne prient pas, ce qui est complètement absurde. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a une tradition à l'oratoire du Louvre. Avant chaque début de culte, Béatrice prie avant d'entrer, et tous les pasteurs ont toujours prié avant de commencer le culte, et notamment prié pour vous et l'assemblée. Également aujourd'hui, nous avons prié pour Madame Meudelin, qui vient de perdre sa maman et qui est donc au Vietnam avec sa famille, pour prier notamment sa maman, mais aussi toute sa famille qui est au Vietnam et qui nous revient dans 10 jours. Voilà, donc pour les annonces de ce jour, normalement il y a 3 éclaireuses.
Alors peut-être regarde ce matin. Donc
oui, si Meux nous regarde.
Et on dit toute notre sympathie à sa famille. Voilà.
Alors il y a 2 éclaireuses, 3 éclaireuses. Enfin, en tout cas, ce sont des panthères. Venez, venez, venez. Qui ont aussi bravé le froid.
Attention, ce ne sont pas des panthères roses, mais
non,
presque.
Des panthères vertes. Je vous passe la parole.
Bonjour. Alors on fait une sortie gâteau pour financer notre camp de cet été. Donc, y a des gâteaux, du chocolat et du café chaud pour tous ceux qui veulent acheter quoi que ce soit.
Ça, c'est bien.
Donc, merci.
Merci.
Alors, c'est bien, mais en même temps,
c'est un peu
compliqué.
C'est un peu concurrentiel, ouais.
Voilà,
avec vous.
Parce que nous avons aussi un verre de l'amitié après. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller acheter tout ce que vous souhaitez aux scouts, aux éclaireuses.
Voilà.
Hein. Vraiment, s'il vous plaît, faites vos courses pour l'heure du déjeuner et venez avec toutes vos victuales. Prendre un verre de l'amitié avec nous, où il y a aussi du café. On va pouvoir mettre en commun notre café chaud, parce que nous avons une conseillère qui a galéré comme une folle depuis 10h moins le quart du matin à essayer de nous faire du café chaud. Donc si en plus on lui annonce,
merci,
elle est là, qu'on ne va pas boire son café, là je crois que t'auras beau être enfant de Dieu, tu seras un peu désespérée.
Voilà. Et les filles, quand la congélation commence à être bonne dehors, vous rentrez et vous nous rejoignez dans la grande sacristie pour le pot, et comme ça on finira vos gâteaux et vous aurez d'autres clients, voilà, pour votre camp, d'accord, voilà.
Ça vous va? Merci beaucoup, c'est le moment de l'offrande, le don joyeux et chaleureux. J'appelle quelques conseillers pour nous aider à la quête. Merci beaucoup, bon dimanche, bonnes vacances à ceux qui sont déjà partis et à dimanche prochain pour les autres, et bonnes vacances à toi Béatrice,
merci
infiniment.
Merci beaucoup à vous. Nous prions ensemble. Éternel, nous voulons te donner notre prière comme une parole d'engagement envers ce monde, comme une réponse à ton appel qui nous dit de faire advenir ton règne. Permets que nous soyons confiants pour pouvoir avancer avec le courage nécessaire pour dire la vérité que tu espères de nous, pour faire la justice que tu espères de nous, pour apporter le bien autour de nous comme tu l'espères de nous. Éternel, nous te remettons nos prières avec tous les mots que nous y mettons pour essayer de comprendre notre monde, pour pouvoir agir et nous déterminer quand parfois les choses sont trop obscures. Éternel, éclaire-nous dans la prière et permets que nous puissions trouver ce chemin que tu indiques et qui est si difficile parfois à trouver. Éternel, nous te remettons nos tentations de fausses prières, tous ces mots qui cherchent à instrumentaliser ce que tu es pour nous, pour faire advenir notre volonté et non la tienne. Nous te remettons toutes celles et ceux qui brandissent la prière comme une arme contre les autres, pour que tu puisses les convertir à ta prière. Éternel, aide-nous et permets que nos paroles soient des paroles inspirées par ton amour sans cesse dans tous les actes que nous posons. Que nous puissions avancer vaillants dans le monde et que nous puissions transformer ce monde. Éternel, nous te prions comme une parole désespérée quand nous voyons le mal que subissent nos contemporains, quand nous voyons tous ces peuples dans la guerre, quand nous voyons cette bêtise immense s'afficher sur nos écrans, quand nous entendons ces déclarations folles qui voudraient devenir vérité. Aide-nous à faire de nos vies des prières. Aide-nous à donner forme à ta parole par notre vie et que nous puissions repousser tout ce mal qui défigure ta création, le monde que tu crées par ta parole. Ensemble, nous pouvons te dire avec confiance cette prière que le Christ a apprise à ses disciples pour qu'ils sachent que tu les aimes comme un père aime ses enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Pour chacun et pour chacune, aller dans ce monde et prier pour ce monde. Il est beau ce monde, il est votre monde, il est celui que Dieu nous donne, il est celui que nous avons à transformer par nos mots, par nos actions, par notre présence, par notre façon d'être. Soyez des prières pour ce monde, des prières de louange à Dieu. Recevons la bénédiction de la part de Dieu, le Seigneur de toute grâce vous fait grâce et vous bénit chaque jour, à chaque instant. Amen.